Chapitre 5. Le temps des forteresses.
Depuis le début de ce récit, on vous raconte ce qui a pu faire tenir les morceaux d'Europe en un bloc et donc préfigurer l'Union européenne d'aujourd'hui. Empire romain, empire carolingien, Saint-Empire romain germanique. Ce sont à chaque fois des grands blocs de territoire plus ou moins soudés, on vous l'a dit. Quand on dit, et on le dit beaucoup, que l'Europe est bâtie sur et pour la paix, ce n'est pas juste une formule. Avoir obtenu que sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés, depuis 78 ans, on ne prenne pas les armes pour massacrer ses voisins et détruire leurs maisons, c'est une prouesse.
Mais ce qui fait aussi notre histoire commune, qu'on le veuille ou non, ce sont les grands affrontements qui ont mobilisé à peu près tous les acteurs européens. Aujourd'hui, c'est souvent les deux conflits mondiaux du XXe siècle qui occupent notre imaginaire et façonnent notre vision de la guerre. En méchamment résumé, on a l'image d'une Allemagne gourmande de conquêtes territoriales qui lance ses colonnes de chars et ses militaires à l'assaut des territoires voisins. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, cette vision déformée par les conflits les plus récents se nuance forcément. Au début du XIXe siècle, c'est Napoléon Bonaparte qui, depuis la France, part à la conquête de l'Europe, unifiant à coups de baïonnette un territoire qui va d'Amsterdam à Naples et réduit à l'état de vassal les royaumes d'Espagne, d'Italie, de Bavière, de Varsovie. D'ailleurs, vous vous souvenez de la Porta Nigra à Trèves? On vous en a parlé au début de notre histoire. Eh bien, avec le temps, sous la volonté du Saint-Empire de se rapprocher de la religion, la Porta Nigra était devenue une église. Napoléon, en conquérant Trèves, va faire démolir l'église pour que réapparaisse le symbole de Rome comme symbole de sa propre volonté d'être reconnu comme un empereur par toute l'Europe.
Si on remonte encore plus loin, à la fin du XVIIe siècle, un autre grand souverain français dont on ne se plaît à retenir que son joli palais de Versailles, Louis XIV, pour ceux qui n'auraient pas compris, Louis XIV ne s'embarrasse pas trop du droit des peuples à l'autodétermination. Il veut lui aussi repousser les frontières de son royaume. C'est ainsi qu'en 1689, la ville de Saint-Vith, aujourd'hui en communauté germanophone, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la Canamine, sera entièrement détruite par les armées du roi Soleil. Elle le sera à nouveau par l'armée allemande en 1944. Comme quoi, cette identité frontière entraîne aussi un risque de mortalité plus élevé que la moyenne. Lors de votre voyage, vous serez confronté à deux traces bien visibles de cet appétit territorial de Louis XIV. D'une part, côté français, des fortifications caractéristiques d'un ingénieur, architecte, militaire qui restera célèbre. Vauban. Toutes les frontières qui ne se matérialisent pas par des barrières naturelles, la Méditerranée, la Manche, l'Atlantique, les Pyrénées et les Alpes comme montagne. Vauban les risque de hautes tours et de citadelles. L'Alsace, qui n'est séparée du territoire germanique que par le Rhin, est ponctuée de ce type de fortifications, comme à Neuf-Brisbach, un peu au sud de Strasbourg. À Strasbourg même, Vauban laisse aussi une trace de son architecture défensive, avec des tours et d'épais murs percés de meurtrières qui surplombent le fleuve.
Côté allemand, ce n'est pas tant l'architecture défensive qui prédomine que les traces de l'offensive de Louis XIV. Ainsi, si le château d'Heidelberg, que vous visiterez également, offre aujourd'hui aux visiteurs des ailes entières de ruines, c'est au canon de Louis XIV qu'il le doit. Voilà de quoi tempérer un peu l'image biaisée des Français bâtisseurs de palais et de murailles et des Allemands uniquement aux commandes de leurs Panzer et leurs Grosse Bertha.